Madame Jeanne Marie-Roux, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ce matin au siège du Suprême Conseil de France à Paris. Nous sommes ici parce que vous avez accepté de candidater au prix de thèse 2018 du Suprême Conseil de France.
Absolument.
Alors pouvez-vous vous présenter pour que l'on sache un peu qui vous êtes et puis quel est le chemin qui vous a mené jusqu'à être ici ce matin?
Alors oui, je suis donc chercheuse en philosophie. Après des études de philosophie, mais aussi de droit, de sciences cognitives, de linguistique. J'ai réalisé donc une thèse de philosophie à l'Université Paris 1, que j'ai soutenue en novembre 2015. Et depuis lors, je suis chercheuse postdoctorante à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, où je réalise une recherche sur les pouvoirs de la parole. Et effectivement, ma thèse était consacrée au thème suivant, les degrés du silence, de la juste place du sens dans le langage et dans la perception chez Austin et Merleau-Ponty. Donc j'ai travaillé en philosophie contemporaine, en philosophie de la perception et en philosophie du langage. Et ce qui m'intéressait à l'époque, et ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est la manière dont notre capacité à parler, et plus précisément notre capacité à dire la vérité, est ou non affectée par le fait que le monde soit silencieux, d'une certaine manière, que les sens ne nous parlent pas. Et donc j'ai élaboré cette réflexion en comparant deux auteurs de philosophie contemporaine, donc Merleau-Ponty et Austin, et j'ai eu la surprise, effectivement, cet hiver, d'être contactée par le Suprême Conseil de France, qui s'est donc déclaré assez intéressé par mon travail pour avoir envie de m'entendre et d'en savoir un petit peu plus. Eh bien, cette proposition, effectivement, un peu surprenante pour moi, m'a beaucoup intéressée tout de suite par curiosité, puis aussi par plaisir de pouvoir parler de ma recherche et en discuter avec pas forcément des spécialistes, mais certains oui, et puis des gens intéressés tout simplement par la pensée. Et je pense que de nos jours, ce sont des choses qu'il faut valoriser.
La pensée et le silence.
Alors la pensée, pourquoi pas lorsqu'elle passe par le silence, ou en tout cas, effectivement, une pensée qui, parce que c'est indispensable de toute façon, je crois, une pensée qui a conscience du fait que bavarder n'est pas réfléchir. Et donc, effectivement, il faut faire une part au silence. Alors, où, à quel niveau, en quel sens exactement, c'est effectivement à discuter. Et se taire n'est pas une vertu en soi, mais se taire dans certaines conditions et faire une part à ce qui est entre nos paroles est important.
Vous avez dit que vous avez été surprise lorsque vous aviez été contactée. Votre surprise s'est transformée en intérêt. Et je pense que vous avez compris pourquoi le titre de votre thèse avait attiré des membres du comité. C'est que le silence est non seulement au cœur de l'initiation maçonnique et de la pratique maçonnique, mais c'est également le premier stade par lequel passe le nouvel initié. C'est-à-dire qu'il a un an au minimum de silence. Après, il peut parler quand il n'est pas dans les cérémonies, mais il se tait. Il se tait, c'est le silence intérieur. Et à partir de là, tout se construit. D'où l'intérêt de votre thèse. Alors, au fur et à mesure de ces quelques mois, comment avez-vous perçu cet univers que vous ne connaissiez pas, a priori, au départ?
Oui, alors, effectivement, les hasards de la vie avaient fait que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître ou de fréquenter des institutions maçonniques d'aucun type. Donc, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, là, au cours des quelques échanges que nous avons eus, à l'écrit et aussi de visu, c'est déjà, d'abord, la grande courtoisie de l'accueil qui m'a été fait. Une vraie transparence aussi, effectivement, alors pour le coup peut-être loin de certains clichés, une volonté de toujours m'expliquer où j'étais, pourquoi et en quel sens. Donc c'est très agréable. Et puis surtout, et c'est évidemment ça le plus important, une grande curiosité intellectuelle et une grande envie de discuter et de réfléchir à partir de matériaux, là, en l'occurrence, étranger quand même, ou en tout cas hétérogène a priori, même si les thèmes sont proches malgré tout. En tout cas, c'était une thèse de philosophie assez classique. Et j'ai trouvé, bon, peut-être pas complètement classique, mais bon, ça je me rends peut-être pas compte. C'est peut-être difficile pour moi de dire exactement ce que j'ai fait, mais en tout cas, qui n'était pas directement lié au corpus maçonnique, ça c'est sûr. Et donc cet intérêt, cette curiosité, puis cette capacité à discuter de manière constructive et bienveillante m'a très agréablement surprise.
Quelle est la suite que vous envisagez dans vos recherches sur cette thématique-là? Et est-ce que le fait d'avoir croisé et d'avoir échangé avec ces formations, en fait, ont influé ou vont influer sur certaines choses de vos recherches à venir ?
Eh bien, alors, je vais vous répondre en deux temps, et non pas en trois, malheureusement. Donc, déjà, bon, à très court terme, déjà, il va y avoir la publication de ma thèse dans la collection de la Bibliothèque philosophique de Louvain, chez Peters. Donc ça, c'est, bon, une suite concrète.
C'est pas vrai.
Le manuscrit est en train d'être déposé, donc j'espère en 2019. Mais à vrai dire, les cartes sont dans mes mains, donc c'est à moi de me dépêcher un petit peu pour... j'ai encore un peu de mal à livrer mon manuscrit à la presse, mais ça va venir. Et deuxième point, plus important sans doute, pour les suites de ma recherche, là je travaille actuellement sur les pouvoirs de la parole, sur ces différentes ententes, les différentes manières dont on peut comprendre la parole. Et initialement, parce que c'est ça que j'ai rencontré dans les textes sur lesquels j'ai travaillé, j'ai surtout travaillé sur la parole scientifique, la parole de vérité, mais aussi les différents types d'actes de parole ordinaires, donner des ordres, se marier, baptiser, etc. Mais aussi la parole poétique, la parole littéraire, plutôt sous l'influence de Merleau-Ponty. Mais effectivement, toutes nos discussions au cours de ces derniers mois on fait apparaître pour moi quelque chose qui était déjà présent, mais qui était peut-être plus souterrain. C'était aussi l'importance de prendre en compte la dimension spirituelle et le rapport à la parole, effectivement, symbolique, mystique, etc. Et par exemple, en fait, ça correspond à un champ de recherche qui existe déjà, qui est le travail sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un acte comme l'acte de parole de prière ? Qu'est-ce que c'est que prier ? Qu'est-ce que c'est que parler lorsqu'on n'est plus dans un ordre tout à fait rationnel, ou en tout cas pas rationnel au sens scientifique habituel du terme, ou dans un registre poétique. Il y a aussi d'autres types d'actes de parole sur lesquels on travaille peu. Et par exemple, j'ai participé à une journée d'études sur les limites du langage où on a parlé de ce discours, en l'occurrence qui était théologique, mais ça ouvre vers plein d'autres pistes. Et je pense que je vais avoir à cœur, je pense désormais, de prendre ça un petit peu plus en considération. Et donc, bon, je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner, mais ça m'intéresse. Voilà.
Vous avez découvert aussi une forme de langage particulière qui était le symbolisme à travers certains de vos échanges. Est-ce que ce symbolisme a piqué votre intérêt ? Est-ce que vous allez l'inclure un petit peu dans vos recherches ?
Bien, ce qui est vrai, c'est que pour le moment, en ce moment, je fais des travaux, je m'intéresse de plus en plus à la linguistique et donc à la question du signe. Mais effectivement, le signe n'est pas le symbole. Et je pense qu'effectivement, l'étape d'après, mais... Et ça fait aussi le lien, par exemple, avec le champ de la psychanalyse qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi de travailler la relation et la différence entre le signe et le symbole. Alors effectivement, ça a un sens c'est un sens maçonnique, mais ça a un sens, je pense, intellectuel encore plus large, si j'ose dire. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser qui peut être très fécond, effectivement, et qui pour le moment est encore vraiment... assez périphérique dans mes recherches. Donc ça, c'est... Oui, c'est... En tout cas, ça peut être une voie intéressante.
Les maçons utilisent des symboles pour toucher à l'universel. Ce langage utilisé est fait pour communiquer via l'universel, en fait, qui s'apparente un peu à ce silence que vous voyez comme couche par-dessus lequel sont posés les signes les mots et les paroles.
Oui. Alors, après, le problème du symbole, c'est qu'il fait référence par définition à quelque chose d'absent et... Tout dépend ce que l'on considère être absent et ce que l'on considère comme non évidemment présent. Et là, évidemment, ça dépend des croyances de chacun. Le pouvoir du symbolique dépend évidemment du sens que l'on donne à cette absence, du sens que l'on donne à ce silence. Alors, chez Merleau-Ponty, chez Austin, la différence, me semble-t-il, est assez nette. Chez aucun des deux, on peut vraiment identifier une relation. Enfin, chez Merleau-Ponty, c'est plus compliqué parce qu'il a été catholique pratiquant. Il y a un fond religieux dans sa pensée tout de même. Enfin, il faudrait travailler les choses plus précisément. Enfin, ça a déjà été fait. Mais disons, il n'y a pas de relation claire dans ce silence, dans cette absence, ni chez l'un ni chez l'autre, à des vérités... supranaturel ou à une réalité invisible qui serait d'ordre religieuse ou d'ordre mystique. Après, si on peuple le silence et l'absence de ces choses-là, évidemment, le symbole peut être une manière d'y référer. Mais c'est ce qui est intéressant, effectivement, le symbole, c'est toujours un signe vers quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier quelque chose d'absent, par définition, quelque chose vers lequel on ne peut pas faire signe directement. Donc, ça serait évidemment intéressant d'explorer les différentes modalités de cette absence, les différentes natures possibles de ces choses auxquelles on se réfère par le biais du symbole.
Par exemple, pour symboliser la volonté, on utilise un levier. Et pourquoi le levier ? Pourquoi est-ce que la maçonnerie a pris le levier pour symboliser la volonté ? Et donc, le jeu, c'était de trouver un autre outil ou un autre symbole qui puisse symboliser la volonté. Et on n'en a jamais trouvé. Qui soit meilleur que le levier. Donc, utiliser les symboles permettent, eux, d'échanger de manière assez pure et directe, sans s'extrapoler sur quoi que ce soit d'autre. Ensuite, on a les symboles beaucoup plus complexes qui, eux, parviennent à faire des passages, justement, de l'autre côté, et dans lesquels on peut se comprendre lorsqu'on maîtrise tout cela. Alors, ma question, c'est, vous parlez d'absence de quoi ?
Oui, mais alors, mais c'est ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est qu'à la fois, dans votre exemple du levier, c'est que, j'ai l'impression qu'il est un peu double, mais peut-être que je vous comprends mal, parce que, à la fois, en effet, représenter la volonté comme un levier, c'est se faire une représentation de la volonté qui est déjà assez cadrée, en fait. Comme si la volonté, c'était quelque chose qu'on devait actionner, mais actionner par le biais de quoi ? Enfin, c'est, comment dire, il y a tout un tas de présupposés théoriques, en fait, dans cette représentation. Et en même temps, justement, c'est censé être un symbole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un symbole ? C'est que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas dire autrement. Comme si le symbole, quelque part, contenait plus que ce qu'il avait l'air de contenir. Donc, ce qui m'intéresse dans cette manière de faire, c'est que c'est comme si à la fois il y avait une image qui était effectivement assez intuitive, mais du coup aussi assez riche en présupposés, en fait, parce qu'on pourrait... Et en même temps, comme si cette image disait « Attention, vous avez peut-être l'impression de me comprendre, mais en fait, vous ne me comprenez pas complètement. Je suis plus riche que ce que j'ai l'air d'être. » Et je pense que c'est ce jeu qui est assez fascinant avec les symboles, en fait. C'est qu'à la fois, ils nous parlent, et en même temps, ils nous disent « Attention
C'est pas aussi simple que ça en a l'air.
C'est pas aussi simple que ça en a l'air.
Par exemple, il faut qu'il soit posé sur quelque chose. Et on ne pose pas sur n'importe quoi. Quand
on... Ah bah, voilà. Et bah ça, c'est un raffinement qui... En fait, il y a une aura un peu de mystère. Et ce qui est intéressant, c'est ce jeu avec le mystère. Pourquoi l'homme, aussi, parfois, dans certaines circonstances, pour parler de certaines choses, pour faire avec certaines dimensions de son existence, éprouve cette sensation de mystère qu'il... symbolise, qu'il met en forme dans des rituels, qu'il... Tout ça, c'est éminemment humain, en fait. Hein. Et de ce point de vue-là, il y a une... anthropologiquement et spirituellement, bien sûr, mais c'est très intéressant, je trouve.
Jeanne-Marie Roux, merci beaucoup d'avoir répondu à Radio Delta. Bonne continuation et on se revoit le 21.
Je vous remercie beaucoup et à bientôt.